Radio JV présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée à la saga Fallout, dont le premier épisode est sorti en 1997. Ils seront comparés aux autres jeux de rôle, notamment vis-à-vis du principe de karma que l'on peut y trouver.
Première partie, présentation et problématique.
Dans le vaste univers des jeux vidéo, il est de général coutume d'opérer une division entre les jeux occidentaux produits et créés aux États-Unis, en Europe ou en Australie, et les jeux orientaux, japonais, chinois ou coréens. Un connaisseur saura bien rapidement, à l'instant même où ses yeux se posent sur un titre en particulier, à quelle catégorie il appartient. Il n'y a pas seulement une différence graphique ou musicale, issue de l'identité culturelle et historique des créateurs, mais également une différence de rythme, de difficulté, une approche toute différente du média. En plateforme, comparons un Mr. Nuts à un Super Mario Bros. Et en RPG, comparons Final Fantasy et, mettons, Skyrim. Bien entendu, l'on pourra toujours se reporter à des différences réelles de gameplay, le tour par tour et l'instantané pour les combats. Mais la construction même du jeu, la façon dont l'intrigue est contée, la personnalisation des héros et de leurs pouvoirs, tout cela permet de tracer une frontière fondamentale entre ces jeux et de leur donner une couleur toute particulière. L'une des différences les plus prégnantes entre ces deux approches du jeu vidéo pourrait se lire dans la façon dont les histoires sont conduites et menées. S'il s'agit toujours, au sein des jeux de rôle et à peu de choses près, de permettre à un héros ou à un groupe de héros de renverser une puissance diabolique au cours d'une longue aventure, l'on observera que les jeux de rôle à l'occidental permettent, le plus souvent, d'avancer dans cette histoire à notre rythme et de personnaliser, on ne peut mieux, le personnage contrôlé, alors que les jeux orientaux seront, en cela, plus dirigiste. Notre héros sera-t-il un magicien ou un voleur, un chevalier ou un péon? Et toutes ces quêtes que l'on peut faire, sans ordre ni mesure ni même, sans se préoccuper encore de la trame principale que l'on cherche à nous faire suivre. En ce sens, les jeux issus de la saga des Elder Scrolls ou encore de la série des Fallout sont peut-être les plus connus ici. L'on peut effectivement passer des heures, des jours entiers, à explorer la cambrousse, se spécialiser, faire des rencontres, lire et parler, voire pour les jeux les plus récents, acheter une maison et vivre une paisible vie de fermier. Et beaucoup de joueurs diront très volontiers que l'intrigue principale, même aussi bien ficelée, n'est pas l'intérêt premier du jeu. Ceci, bien évidemment, si l'on fait abstraction de la saga des Fallout et de leurs multiples fins. En effet, ces jeux, comme d'autres avant eux, bien entendu, proposent au fur et à mesure de la complétion de leur histoire de faire des choix qui permettent de peser de façon plus ou moins lourde sur l'issue du jeu. Prenons ainsi New Vegas. Au terme de l'aventure, l'on peut choisir soit de se ranger aux côtés de l'armée de Nouvelle-Californie, aux côtés de celle de César, ou encore de faire cavalier seul. Et l'on peut ramener à soi différentes factions, augmenter la puissance des robots-gardiens de la cité des jeux, et autre chose encore. Mais au-delà de ces choix, un autre élément présent dans la saga des Fallout depuis le commencement lui donne une couleur toute particulière. Le concept de karma. Le principe reprend, bien évidemment, celui de plusieurs religions orientales et peut se décrire comme étant la somme des actes effectués par le héros. Au fur et à mesure du jeu, l'on peut choisir d'aider les pauvres êtres, de punir les méchants et de sauver les bons, ou, au contraire, de tuer et de voler, d'être esclavagiste. Ces décisions influencent alors une barre de karma qui va, grossièrement, de angélique à démoniaque. Et ce faisant, le joueur de pouvoir accéder ou ne pas accéder à certaines parties du jeu ou à certaines quêtes, à certaines capacités et compagnons, etc. Au-delà même de la question, que nous traiterons cependant par la suite, de la façon dont les limites du bien et du mal sont considérées, autre chose devrait pourtant attirer le regard. En effet, prenons par exemple Fallout 3. Quel que soit l'alignement karmique du joueur, la décision finale de rétablir ou non l'arrivée d'eau potable au sein de Washington DC ne consiste qu'en un seul et unique choix dans une boîte de dialogue. Les puristes me répondront que cela est décevant vis-à-vis des autres épisodes. Mais songeons également à New Vegas, pourtant mieux sous tout rapport. Il n'y a, là encore, aucun lien particulier entre la fin choisie et l'alignement karmique. Même si le joueur désire faire gagner l'empire de César et doit, pour cela, faire quelques actions répréhensibles et, donc, s'approcher du démoniaque, il lui est toujours possible, par divers moyens, sur lesquels je reviendrai, d'augmenter un peu cette barre, et réciproquement, s'il désire faire gagner l'empire de Nouvelle-Californie. Autrement dit, et présenté ainsi, il semblerait que ce principe karmique, pourtant on ne peut plus intégrer au gameplay, semble superfétatoire dans le grand ensemble du jeu. Si vous êtes familier de l'émission, vous savez bien que, déjà, la mise en réseau constitutive du signe vidéoludique et que nous étudions ici doit contredire cette impression première, ce qui crée alors un paradoxe qu'il nous faut tâcher de résoudre. Nous allons donc poser la problématique de ce numéro comme suit. Quelle est l'influence de l'alignement karmique des jeux Fallout à l'aune de leurs histoires globales?
Deuxième partie, le bien, le mal et les flingues.
Afin de faire le tour de cette question, il est nécessaire de s'intéresser tout d'abord à la façon dont le jeu considère le bien et le mal, et la façon dont le joueur peut assimiler ces concepts. Sans pour autant faire ici un rappel de la façon dont les différentes civilisations ont mis en place et exploité ces concepts, je préciserai de prime abord que la différence entre jeux vidéo orientaux et jeux vidéo occidentaux peut bel et bien se lire, nonobstant la mondialisation que nous connaissons bien, dans ces notions. Étant donné que ces questions morales et éthiques sont intimement liés à l'histoire religieuse des peuples concernés et que les religions monothéistes de l'Ouest et celles shintoïstes ou bouddhistes de l'Est sont fondamentalement différentes l'une de l'autre, il est naturel que les notions de bien et de mal le soient de même. Il existe pourtant de grandes constantes unanimement partagées autour du globe. Aussi, l'on peut considérer que ce qui nous permet, à nous tous, de nous construire en tant qu'entité entière et comme humanité, est le respect de la vie et de l'existence humaine en général. Tout ce qui vise à préserver une vie humaine est considéré comme tirant du côté du bien. Tout ce qui implique de la détruire tire du côté du mal. Évidemment, et des millénaires d'histoire humaine de nous l'apprendre, ce principe fondateur, pourtant répété encore et encore sur tous les tons, est souvent mis à mal. Que ce soit parce qu'on considère l'autre non comme un homme, mais comme un animal, ce qui a pu justifier certaines pratiques esclavagistes, ou bien parce qu'on invoque la conservation de sa tribu, de son peuple ou de son clan face à une menace extérieure, les excuses n'ont pas manqué pour génocider son prochain. Considérons cependant ceci comme une règle générale. De façon annexe et légitime, toutes les actions et tous les actes qui permettent alors de sauver la vie d'un de nos semblables ou de faciliter son existence sont considérés comme étant bons, et ce qui pourrait abréger sa vie ou le blesser est mal. Apparaissent alors les cas de conscience, ces instants délicats qui ne surviennent généralement jamais dans nos vies quotidiennes, mais auxquels certains corps de métier, secouristes et militaires, peuvent être confrontés. Dans ces cas particuliers, il y aura nécessairement du mal de fait et nécessairement des morts. Mais cela se fait au profit ou au détriment selon d'une ou de plusieurs autres vies. Les œuvres de fiction et les pensums philosophiques aiment particulièrement à étudier ces situations. Doit-on sacrifier une vie pour en sauver des dizaines? Qui choisir entre deux amis ou entre deux enfants, comme le fit Sophie dans le fameux roman? Si vous pouviez revenir dans le temps pour tuer Attila, serait-il juste et bon de le faire? Etc. etc. Ces questions éthiques, il convient d'en être conscient, sont différemment abordées selon les âges, les peuples et les religions. Il en est pour qui l'individu prime sur le nombre, ou réciproquement, où l'on doit sauver le guerrier avant le penseur, ou le contraire, où il faut raisonner à long terme et non pour les secondes qui viennent, et ainsi de suite. Sur la longueur d'une histoire fictionnelle, ces choses ne sont finalement pas très importantes car, à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. C'est d'ailleurs grâce à cela que la mondialisation, Hollywood et les jeux vidéo même ont pu exister. Mais les étapes intermédiaires, j'en viens à cela, diffèrent fondamentalement. Les jeux Fallout, de là, et pour permettre, autant que faire se peut, leur exportation, se doivent alors de se réduire au plus petit dénominateur commun et de limiter, autant que faire se peut, ces occurrences problématiques ou, plutôt, les jeux vous proposent des situations qui semblent facilement résolues avant de vous surprendre par la suite. Considérons, pour exemple, dans Fallout 3, la quête de Tenpenny Tower. Dans cet immeuble, les habitants sont en guerre ouverte avec une tribu de ghouls se dissimulant dans des tunnels non loin. Tout le long de la partie, le joueur a pris le temps de connaître ces ghouls et de savoir que, bien que certaines soient dangereuses, la plupart souffrent plutôt de stéréotypes liés à leur apparence et qu'ils ne sont ni cannibales ni particulièrement violents. Aussi, il est trois façons de résoudre cette quête. Les voies méchantes, qui consistent à prendre parti pour l'une ou l'autre de ces factions et à annihiler la seconde. La voie gentille, qui consiste à trouver, au contraire, un juste milieu entre ces factions et user de diplomatie pour qu'ils fassent la paix, et notamment que les ghouls soient autorisés à vivre au sein de la tour avec ses premiers habitants. Les deux premières issues, dans la mesure où elles impliquent le meurtre de semblables, feront baisser votre karma, alors que la troisième, au contraire, et en privilégiant une solution pacifique, l'augmentera. En revanche, si vous choisissez de procéder ainsi, il surviendra plus tard dans la partie un événement tragique. Les ghouls prendront possession de la tour et tueront les hommes s'y trouvant. Certaines quêtes de Fallout New Vegas sont du même ressort, c'est-à-dire que les conséquences d'une solution pacifiste sont parfois plus terribles encore qu'une autre qui aurait pu limiter la douleur et la mort de chacun. Les développeurs, alors, trichent plus ou moins avec le principe d'alignement karmique. En effet, si celui-ci évolue bien, selon les conceptions universellement reconnues de bien et de mal, et notamment l'absolu interdit du meurtre, du vol et du viol, il ne prend nullement en compte des situations plus complexes d'un point de vue éthique, en faisant en sorte de vous imposer les conséquences de vos actions sans qu'elles n'influencent votre alignement karmique. Il est alors possible de dire que bien et mal sont pris ici dans une exception kantienne ou, si l'on préfère, absolue. Il n'est pas le bien et le mal, mais plutôt bien et mal, comme le dira Nietzsche dans son célèbre ouvrage, soit deux concepts parfaitement définissables et déconnectés de toute morale ou de toute éthique, comme le chaud, le froid, le proche et le loin. En ce sens, et à cet instant-ci de notre réflexion, le karma de Fallout n'est jamais qu'un paramètre de jeu comme la santé, l'argent ou les munitions. S'il influence effectivement le gameplay en permettant de faire ceci ou cela, il ne permet pas, à proprement dit, de subjectiver notre expérience et reste, on ne peut plus, dans le domaine de l'objectif et des mathématiques, chose que l'on pouvait déjà présager. Il est déjà infiniment difficile, dans notre vie quotidienne, de savoir précisément où se trouvent les limites du bien et du mal, ce n'est pas pour les trouver dans un logiciel, aussi bien fait soit-il.
Troisième partie, les causes secrètes des choses.
Et pourtant, aussi fallacieux que ce principe karmique puisse être, et comme je viens de le montrer, il suffit de jouer à n'importe quel épisode de Fallout pour se sentir autrement plus investi que dans n'importe lequel du genre. Bien entendu, nous avons tous eu à frissonner ou à avoir peur dans un jeu, face à la mort d'un protagoniste ou lors de l'apparition brusque d'un zombie, encore lorsque nos munitions sont épuisées ou que nous sommes à deux doigts de la mort. Mais ces peurs et frissons ne sont jamais que des conséquences attendues de causes finalement fort facilement identifiables, et de la conduite générale de l'histoire et du script inhérent au caractère narratif des jeux de rôle, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Le karma de ces jeux, comme dit à l'instant, peut également se réduire à l'une des méthodes trouvées par les développeurs pour influencer notre expérience de jeu. Il me semble cependant que les conséquences de ce principe et la façon dont le joueur est amené à le considérer diffèrent lourdement du reste. Je m'en vais illustrer cela en le comparant d'une part à un jeu de rôle japonais bien connu, Final Fantasy VII. Je ne m'aviserai pas ici à résumer l'histoire, fort complexe et emberlificotée, du jeu. Mais je rappellerai surtout son prologue. Le joueur incarne Cloud, un mercenaire qui rejoint, contre monnaie sonnante et trébuchante, un groupe terroriste du nom d'Avalanche qui mène une série d'attaques ciblées à l'encontre d'une société industrielle. Imaginons alors un instant que nous ne sachions rien de plus de la suite de l'histoire du jeu et que ce seul synopsis vous soit offert. Je vous pose alors la question de but en blanc. Qui est le gentil? Qui est le méchant? Il est tout de même de fortes chances pour que vous penchiez, en y réfléchissant un peu, pour la société industrielle. En face, il y a des terroristes qui perpètrent des attentats avec l'aide d'un mercenaire, donc un individu qui a trahi son corps de métier premier pour l'argent, à l'encontre d'une société où travaillent d'innocents employés. À part les activistes, les anarchistes et les libertaires, qui excuserait les actes de Ravaillac ou de Ravachol? Si l'on sait dans la suite du jeu, pourtant, que cette société est démoniaque, pillant les ressources naturelles de la planète, tuant des innocents, etc. L'on sait pourtant, plus ou moins dès le commencement du jeu, dès le prologue, que malgré ce synopsis premier, les terroristes seront les héros et les gentils de l'aventure. À mon sens, cela est dû à deux causes primordiales. Une première de narration, une seconde de gameplay. La cause narrative est en réalité une ficelle usée, on ne peut plus, mais que l'on apprécie encore aujourd'hui. En anglais, on l'appelle l'underdog. En français, par un curieux hasard des langues, on l'appelle l'outsider, ou le rebelle. C'est là un principe étrangement partagé dans nombre de civilisations et que la mondialisation culturelle n'a fait qu'accroître. L'idée que l'homme seul ou le groupe réduit a raison vis-à-vis d'un groupe plus grand. Ce n'est jamais, peut-on dire, que la théorie du monomythe de Campbell, l'histoire d'Ulysse. L'homme ou la femme, seul contre tous, attire immédiatement notre sympathie. Dans Aliens, on fait confiance à Ripley. Dans Kill Bill, The Bride a notre entière amitié. Dans les jeux vidéo, les terroristes sont bons au regard des grosses compagnies capitalistes. Cela est étrange quand on y songe, car l'idée va à l'encontre de la démocratie que l'on aime, du grégaire que nous sommes, des communautés que l'on cherche à construire. C'est qu'inconsciemment, nous faisons un parallèle évident entre la faiblesse et la bonté, et entre le mal et la force. Nous considérons ainsi qu'il est plus facile de faire le mal, et que le bien doit être défendu, comme si la nature humaine et cela est plus vieux que toute notre morale judéo-chrétienne, penchait évidemment vers la souffrance. Ovide disait déjà « Video melioria proboque deteriora sequor » soit « Je vois le bien, je l'aime et je fais le mal ». Comme Aristote l'a alors montré, et comme notre esprit et notre éthique fonctionnent évidemment par couple, si l'on associe la facilité au mal, le difficile est nécessairement le bien. Et rien n'est plus difficile que d'être David face à Goliath. Je précise ici qu'il ne s'agit pas de discuter du bien fondé ou des conséquences politiques d'un tel système de pensée, car certains sophistes et certains démagogues ont repris ceci à leur compte pour dénoncer la bien-pensance, mot en réalité creux de tout sens, mais je m'éloigne de mon propos. Considérons alors ceci. Dans une œuvre de fiction, nous sommes incidemment enclins à embrasser une cause terroriste ou révolutionnaire, car étant dangereuse et prompte à être écrasée, nous l'associons très rapidement au bien. La cause de gameplay est plus évidente à comprendre. Dès le prologue, nous pouvons entrer dans un sous-menu et changer l'équipement de notre héros, boire ses points de vie, et ainsi de suite. Cela ne paraît rien. Mais lorsque plus tard dans le jeu, nous assisterons à ce flashback fantasmé avec Sephiroth, il sera impossible au joueur d'enlever à ce dernier sa Mazamoun ou de modifier la moindre de ses matérias. Or, et comme j'eus à le dire dans une précédente émission consacrée à Half-Life et à Portal, l'interaction produit de l'empathie. Lorsque vous pouvez interagir avec un animal, un objet ou une autre personne, et ce même par l'intermédiaire d'un écran, vous développez naturellement une subjectivité à son endroit. Par incidence, c'est pour cela que l'Internet est rempli de forums, de chats et autres sites de partage. Nous sommes, et je reprends encore une fois Aristote ici, des animaux sociaux, et même le dernier des geeks et des hikikomori a besoin d'un semblant d'interaction humaine, même par procuration. De là, et cela sera important pour la suite de notre réflexion, la personnalisation et l'interaction avec notre avatar, même de façon minimale, invite à l'identification à celui-ci. Comme nous nous présentons généralement et naturellement comme des êtres bons ou tendant vers la bonté, et que la méchanceté est pour nous un jeu et une attitude secondaire, il est légitime alors de considérer que le personnage ainsi contrôlé est lui-même un héros et non un belligérant. Ces deux aspects, construction narrative d'une part et personnalisation empathique de l'autre, permettent aux joueurs de mieux se sentir concernés par les tribulations de son avatar et, surtout, de comprendre que nous dirigeons dès le commencement le héros légendaire que l'on a l'habitude de croiser dans nos jeux vidéo. Considérons alors davantage ces notions et appliquons-les au jeu Fallout.
Quatrième partie, l'impératif catégorique ou seul contre tous.
La contrainte narrative, celle qui permet de s'associer à l'outsider, est remarquablement bien suivie au sein des jeux Fallout. Quand bien même pourrait-on s'adjoindre l'aide d'un compagnon, ceux-ci sont lourdement facultatifs et l'on peut très bien traverser le jeu sans en trouver un seul. L'identité de ces héros, l'habitant d'abri, le vagabond ou encore le courrier selon le jeu traversé, témoigne bien de l'exploitation de cette ficelle narrative. Incidemment, nous considérons alors, et cela ne sera donc pas sans conséquence, que notre cause est juste et que nous tendons vers le bien. La contrainte de gameplay, quant à elle, se lie tout autant au sein de la personnalisation absolue de notre personnage, apparence et surtout système spécial et autres caractéristiques, que dans ce fameux système de karma. Je rappelle ici que les jeux Fallout exploitent ce système de karma d'un point de vue kantien ou absolu, ce qu'on appelle encore l'impératif catégorique. Il existe un bien et un mal déconnectés de tout contexte et de toute nuance, et qu'il se concentre surtout sur l'acte lui-même et non sur ses conséquences ou sur ses causes. Car, et effectivement, les causes et les conséquences, elles, sont détachées de tout principe karmique. L'initiation de la quête vous est imposée, que ce soit trouver une puce pour réparer un purificateur d'eau, récupérer un jardin d'Éden en kit, connaître le devenir de son père, ou se venger d'un assassin sans scrupules. Dans tous les cas, et malgré les différences éthiques notables entre ces objectifs, perpétuer le devenir de son clan ou atteindre égoïstement un bien-être sensible, nous sommes invités à considérer que nous sommes gentils et naturellement bons, car seuls contre tous. De même, la finalité de ces aventures, annihiler la menace des supermutants, de l'enclave, ou encore décider à qui appartiendra le barrage Hoover, est globalement orientée vers le bon, dans la mesure où elle œuvre vers le plus grand bien et n'induit pas une destruction systématique et raisonnée d'une civilisation ou de l'espèce humaine en général. Autrement dit, et comme je l'ai indiqué, la gestion karmique ne concerne surtout que les actes eux-mêmes, causes et conséquences étant, à l'instar de tous les jeux de rôle de la création jusqu'à ce jour, scripté. À ma connaissance, il n'existe aucun jeu narratif à l'heure actuelle. Même parmi les représentants du genre dit du bac à sable, du moment qu'ils prétendent avoir une quête principale qui fasse abstraction de ce principe. Si les raisons derrière cela sont en grande partie techniques, il est également, selon moi, une raison éthique. L'on ne saurait permettre à un joueur de devenir entièrement mauvais au sein d'un jeu vidéo quelconque ou, plutôt, si on peut lui permettre d'accomplir des actions répréhensibles, il faut que la raison derrière cela et les conséquences après cela ne l'empêchent pas de finir le jeu. Fallout, premier du nom, est l'illustration parfaite de ce phénomène et de son inadéquation avec la notion d'interactivité et, in fine, avec le jeu vidéo lui-même. Son expérience a permis de comprendre la difficulté sous-jacente à ses réflexions. Dans ce premier épisode fondateur, effectivement, si le joueur s'amuse à être le plus détestable possible, l'intégralité du monde traversé sera, on ne peut plus hostile à son égard, et plus rien ne pourra être fait, rendant alors le jeu impossible à terminer. C'est pour cela que dès le second épisode, un principe de karma par zone est instauré. Et de façon on ne peut plus symétrique, Fallout 3 a déçu le joueur car le jeu devenait toujours et indubitablement terminable malgré notre alignement karmique, alors que le découpage de celui-ci par faction dans New Vegas permet de bien mieux moduler son expérience de jeu. Dans Fallout et dans Fallout 3, les développeurs ont pris le parti d'avoir une approche bien trop réaliste des notions de bien et de mal, ce qui a conduit au problème que je viens de décrire. J'expliquais, dans mon émission consacrée à Metal Gear Solid et dans celle traitant de Donkey Kong Country, combien le jeu vidéo était intimement lié à la virtualisation et que la réalisation était difficilement atteignable et, plus encore, que les règles du média étaient difficilement conciliables avec ce que nous connaissons de notre réalité. En cela, nous savons bien que notre existence n'est pas écrite par avance et que toutes nos actions ont des conséquences. Plus encore qu'il n'existe pas une notion de bien ou de mal déconnectée de toute existence humaine et que tout est toujours affaire de contexte, de nuance, de sensibilité. Pour reprendre Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Dans Fallout premier du nom, le monde des pins est cruel, sombre, froid, terrible. Le moindre écart fait de vous un paria et toutes les portes vous seront alors fermées. Dans Fallout 3, le monde traversé, bien qu'indubitablement glauque et sordide, est malgré tout traversé d'espérance et de bonhomie. Il est facile de se trouver des alliés et des amis. De là, quoi que l'on fasse, la quête sera menée puisque vous n'êtes qu'un rouage dans une gigantesque machine. Quand bien même le bien et le mal seraient effectivement kantiens et catégoriques, absolus et déconnectés, les développeurs ont essayé d'introduire de force les conséquences de cet alignement karmique ou, au contraire, de le nier parfaitement, ce qui rend, in fine, son exploitation inutile au-delà de quelques expérimentations agréables qui ne conduiront, finalement, qu'à la recharge de notre sauvegarde précédente. Pour le dire autrement, nous sommes seuls contre tous, et notre existence n'est pas nécessaire dans ce monde. Celui-ci n'est pas construit autour de nous. De façon parallèle, pour finir le jeu, nous sommes condamnés au bien. Fallout 2 et New Vegas rencontrent le même problème, mais proposent une autre résolution de celui-ci. Ils font en sorte que vos choix karmiques n'aient aucune réelle conséquence sur l'histoire du jeu, mais plutôt une conséquence limitée, par faction ou par zone. Ce qui vous permet alors, et étrangement, de bien mieux personnaliser votre avatar et d'avoir une plus grande empathie pour ce dernier. S'il ne saurait être un méchant absolu puisque nous sommes condamnés au bien, il est possible d'être ci et là, et pour certains, une mauvaise personne. De la même façon que de notre existence, nous ne pouvons plaire à tout le monde. De là, ce système de karma permet une plus grande empathie en épousant la réalité sociale que nous connaissons. Rappelons, une fois dernière, la situation qui semble de prime abord paradoxale. D'un côté, Fallout et Fallout 3, l'alignement karmique a une conséquence sur l'évolution de l'histoire du jeu. Mais puisqu'il peut vous empêcher de le terminer, l'alignement karmique est en réalité un oripeau qui vient habiller l'aventure, mais rien de plus. De notre côté, Fallout 2 et New Vegas, l'alignement karmique n'a aucune conséquence sur l'évolution de l'histoire du jeu, mais uniquement sur de petits éléments, ci et là. Et puisqu'il est justement déconnecté de l'objectif de l'histoire, il permet une plus grande personnalisation du héros et une plus grande empathie en faisant en sorte d'être apprécié ou déprécié dans certains niveaux nullement connectés au grand ensemble parcouru. Dans les deux cas, et pour les raisons éthiques que j'ai présentées au début de cette émission, nous sommes condamnés à faire le bien. Mais si, d'un côté, cette peine est perçue comme une punition et comme une nécessité absolue et constamment rappelée, de l'autre, elle est davantage une sourdine, un leitmotiv qui, certes, finira toujours par triompher, mais qui sait se faire oublier au profit de l'investissement émotionnel qu'il provoque. Pour dire les choses simplement encore, l'alignement karmique a un intérêt si et seulement s'il est catégorique et absolu, et n'influence pas l'existence de l'univers du jeu, mais a des conséquences immédiates sur la façon dont une faction vous reconnaît. Autrement dit, s'il fait office de jeu dans le jeu, dans ce jardin à la française que l'on vous demande de traverser de son entrée à sa sortie, il est des bacs à sable dans lesquels vous pouvez vous ébrouer et dans lesquels vous pensez réellement être libre, même si ce n'est jamais qu'une illusion.
Cinquième partie, le jeu vidéo, peut-il être éthique ?
Cette réflexion sur le karma de la saga Fallout me permet, en conclusion, de poser une autre question. De la même façon que tout est politique, si je me surprends à faire du Marx, il est difficile de concevoir un média ou une forme d'expression humaine déconnectée de toute éthique. Il y a, bien entendu, les surréalistes et les impressionnistes, les expériences sensorielles, et loin de moi l'idée de les minorer. Mais tout ce qui peut rentrer dans la catégorie, large et disparate, de la figuration, fût-elle picturale, littéraire ou vidéoludique, et de la narration, porte nécessairement un message éthique. La saga des Fallout, sa façon de faire le bien, sa façon de devoir le faire et, finalement, la façon qu'elle a d'inclure l'alignement karmique est révélatrice de cette pensée. Car si les jeux proposent une réflexion sur l'éthique ou, plutôt, car c'est bien de cela qu'il s'agit, proposent aux joueurs d'être une pourriture absolue, le jeu le punit, soit en devenant impossible à terminer, soit en niant toute action de sa part. Et le seul moyen, alors, d'introduire ce karma est de l'isoler du reste du jeu, d'en faire quelque chose de déconnecté de la narration au même titre qu'un niveau de vie ou de munition. Mais ce faisant, le jeu propose une réflexion sur ce principe. Et il nous faut l'interpréter non seulement d'un point de vue ludique, et comme nous l'avons fait ici, mais également d'un point de vue éthique. En étant dans l'impossibilité de contrôler un méchant absolu, un anarchiste, mais bien un gars sympa et qui n'hésite pas à rendre service, nous nous rendons compte en réalité que le jeu vidéo est encore, à ce stade philosophique et narratif bien entendu, dans un état très archaïque de sa réflexion. Du point de vue littéraire, je le comparerai volontiers au Moyen-Âge. Nous sommes encore dans l'instant où les auteurs racontent le monde et le justifient. Nous sommes tout orientés vers l'idée de progrès et de succès. Et les jeux de raconter les exploits de multiples héros, tous allant dans le sens d'un mieux-être généralisé. L'on considère, et c'est là un débat qui revient régulièrement, le jeu vidéo comme violent ou sexiste, sans doute aucun, et comme l'étaient également les romans de Chrétien de Troyes, tout anachronisme mis à part. À cet instant-là du média, il ne réfléchit pas sur le bien fondé de son existence. Il est, et rien de plus. Le bien et le mal, tout comme le juste et l'injuste, le laid et le beau, sont dictés par la culture extérieure et environnante, et le jeu vidéo ne parvient pas à créer son propre réseau de valeurs. Il a ses codes, ses règles et ses objectifs, certes, mais son éthique ne lui appartient pas. Il s'éveille cependant à sa grammaire, comme je le montre dans cette émission, et comme les joueurs partout ailleurs s'en rendent progressivement compte. Mais il lui faut encore développer sa renaissance et, alors, remettre en question ses lois et sa morale. De la même façon que le jeu vidéo doit faire, comme je le disais jadis, l'expérience du néant, sa prochaine évolution est le principe karmique de Fallout de nous montrer que le chemin est encore long, doit être philosophique. Il doit se risquer à ne rien narrer et laisser sourdre, telle une nouvelle civilisation, ses propres valeurs de bien et de mal.